Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Ita b'midrash ocher tom O anisa elokim lavo lakachat goy mikerev goyim Amar Rabbi Abba Bachanam בשם רבי חנין, מהו גוי מקרב גוי? כי אדם ששומט את העובר נמעה בהמה. Alors, comprenons cette idée. Il y a un verset de la Torah qui dit, en parlant de la sortie d'Égypte, a-t-on déjà vu un dieu qui est venu, qui a essayé même de chercher un peuple au milieu d'un autre peuple? En d'autres termes, c'est ainsi que la Torah elle-même décrit l'événement de la sortie d'Égypte. Israël était au sein des Égyptiens. Et le Midrash dit littéralement comme un fœtus que l'on voudrait tirer des entrailles d'une bête. Imaginez une vache qui est grosse, qui a un petit veau, et on veut lui enlever ce veau. C'est impossible, c'est organiquement impossible. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, le veau et la vache, c'est-à-dire le fœtus et la maman, sont liés organiquement de tas de façons. Et la Gemara dans l'Ida décrit qu'est-ce que c'est que la grossesse. Elle dit, la bouche est fermée, le nombril est ouvert, et le fœtus se nourrit par le nombril et pas par la bouche. Quand vient l'instant de la naissance, ce qui est ouvert se ferme et ce qui est fermé s'ouvre. En d'autres termes, la naissance c'est quoi ? C'est la bouche du bébé qui s'ouvre. D'ailleurs, voilà pourquoi le premier signe que l'enfant est né, c'est le cri. Le cri, ça veut dire en fait la respiration. Il respire, donc il émet un son. Ce son, c'est un pleur qui exprime en fait, bon, on rentre déjà dans les midrashim, enfin qui exprime une sorte de ce qu'on va appeler nous un traumatisme de la naissance, que le midrash va expliquer de façon très intéressante, à savoir que pendant que nous sommes, nous les hommes, dans le ventre de notre mère, il y a un ange au-dessus de nous qui nous éclaire et qui nous apprend la Torah du début à la fin. Et lorsque l'on arrive dans ce monde, on cesse d'apprendre la Torah, alors on est malheureux. C'est comme ça que les Chachamim, de façon assez poétique, expliquent le pleur de la naissance. Parce que, en fait, pour un peu lever le niveau, ça veut dire que j'étais en tant que fœtus, comme le dit d'ailleurs le prophète Job, Iov, pendant que je suis dans le ventre de ma mère, je ne fais que recevoir. C'est facile. Je n'ai aucun effort à fournir. Je suis nourri sans effort. Je respire sans effort. J'apprends sans effort. Vient la naissance, et là d'un coup, tout se fait avec des efforts. Respirer, manger, apprendre. Et cette prise de conscience, entre guillemets, de cette nouvelle étape est un vrai traumatisme. D'un coup, tout change. Ce bouleversement s'appelle la naissance. Bon. Mais si ce que nous retenons, nous, c'est combien les relations entre la mère et le fœtus sont profondes, intimes, organiques au sens étymologique, c'est-à-dire les organes sont liés l'un à l'autre. Tout ce que la mère mange, l'enfant le mange, etc. Donc tout ceci pour nous dire quoi ? Comment était Israël, dit ce Midrash, en Égypte ? C'est pas juste des étrangers, comme on dirait aujourd'hui, qui avaient une carte de séjour. C'était un peuple qui était inséré organiquement dans le pays d'Égypte. Suivez bien la comparaison, elle est à prendre à la lettre. Les Juifs se nourrissaient de ce que les Égyptiens mangeaient, apprenez ce que les Égyptiens apprenaient. En d'autres termes, c'était une assimilation totale, intellectuelle, culturelle, complète. Et surtout, comme le fœtus par rapport à sa mère, Israël n'avait aucune identité propre. Il n'avait évidemment pas d'autonomie, que l'on croit simplement, comme on le dit dans la Gada, que l'Égypte c'était pour nous un esclavage, c'est-à-dire on nous demandait un travail qu'il fallait faire, et si on ne voulait pas, on recevait des coups de fouet. C'est vrai aussi. Mais ce qui est, je veux dire, le plus fondamental dans cette situation, c'est l'état de dépendance qui était le nôtre. Voilà pourquoi le verset de la Torah, qui définit le mieux la sortie d'Égypte, c'est « A-t-on déjà vu un Dieu qui a essayé de prendre un peuple au sein d'un autre peuple ?» Sortir de là, c'était quelque chose d'énorme. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux. Je lis juste les trois lignes qui sont à la fin de la première page. « Imken, Matai ayu Israël et Ham » בשעה שעמדו על סף היציאה ממצרים, והקדוש ברוך הוא ציווה להם מצוות, אז נהיו להם. עם שיש לו מצוות משלו, יש לו גם חיות משלו. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque les Juifs en Égypte vivaient comme les Égyptiens, ils étaient donc en quelque sorte sous la législation égyptienne. Les lois d'Égypte, c'était leur loi. Et pas le choix. En sortant d'Égypte, nous sommes devenus un peuple. Ça veut dire quoi? Nous avons été, entre guillemets, nous sommes nés en recevant des ordres que Hachem nous a donnés. Qu'est-ce qui nous a rendu peuple? C'est les mitzvot. Et ça, nous le voyons bien dans les versets. En effet, au moment de la sortie d'Égypte, avant même de quitter l'Égypte, dans le chapitre 12 de Shemot, là-bas Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parle au béné Israël et dit-leur, ce mois-ci est pour vous le premier de tous les mois. Ils ont reçu la première mitzvah de la Torah qui était de sanctifier le nouveau mois, c'est-à-dire l'apparition de la nouvelle lune. Et là nous étions le premier Nissan, alors que la sortie d'Égypte a eu lieu le 14 Nissan, 14 au soir. Donc, deux semaines avant, on reçoit l'ordre de réaliser que maintenant, il va se passer quelque chose. La lune qui vient d'apparaître, il faut la sanctifier, bénir. En disant, cette lune-là, elle annonce un nouveau mois qui est pour nous, juifs, le premier de tous les mois. On a démarré un nouveau compte de l'histoire. Et ce conte de l'histoire, qui est basé en fait sur la Lune, pourquoi? Parce que la Lune est un astre qui est dépendant. C'est en fait un satellite de la Terre, mais qui doit sa lumière au reflet du Soleil. En d'autres termes, c'est le Soleil qui éclaire la Lune. Comme Israël, qui à l'époque était éclairé, entre guillemets, par l'Égypte, devient maintenant éclairé par Hachem. Hachem dit au béné Israël, vous êtes mon peuple, ça veut dire que pour vous, il y a un compte spécifique, il y a une mitzvah spécifique, et cette mitzvah spécifique, elle va se concrétiser juste après, dans le même chapitre. Rappelez-vous, chapitre 12 de Shemot. C'est le chapitre qu'il faut consulter si on veut comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je peux avancer à vous faire des photocopies, comme malheureusement, on a plus le temps. Mais c'est très facile. Il leur dit donc, ce mois-ci est le premier de tous les mois, et maintenant, vous allez faire, prenez chacun un agneau par famille, vous allez l'attacher au pied de votre lit, vous le ferez le 10 Nissan, et le 14 Nissan, on offrira cet agneau en corban, en sacrifice. Et après, dans la nuit, nous sortirons d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Beaucoup d'enseignements. Le premier d'entre eux, c'est que l'agneau était un animal qui était divinisé en Égypte. Une des idoles égyptiennes les plus marquantes, c'était l'agneau. Donc, que demande Hachem à son peuple ? Pour bien montrer que maintenant, vous coupez avec l'Égypte, vous allez prendre ce que les Égyptiens adorent, leur Dieu, celui devant lequel ils se prosternaient, et vous allez le sacrifier. On ne peut pas être plus tranché, si j'ose dire. Pour bien montrer que, désormais, leur Dieu, c'est votre sacrifice. Évidemment, les Égyptiens n'étaient pas du tout contents. Et ça, ça s'est passé. On est sorti d'Égypte, d'après la tradition orale, un jeudi. Le jeudi était le 15 Nissan. Donc le 10 Nissan, c'était un Shabbat. Et ce Shabbat, c'est le Shabbat qui vient, maintenant, qui s'appelle, depuis l'époque, le Shabbat Agadol. Agadol, qui veut dire le grand Shabbat. Pourquoi grand ? Nos sages disent en raison du grand miracle qu'il y a eu. Quel miracle ? Imaginez un peu, les Juifs, un peuple d'esclaves, qui était donc dépendant, comme je viens de l'expliquer. Et voilà que ces esclaves, non pas se révoltent simplement, non pas qu'ils veulent sortir, ils prennent leur Dieu et ils le tuent. Ils disent, voilà, on va le tuer. Évidemment, les Égyptiens, on dit, ben c'est nous qui allons vous tuer. Et immédiatement, les Égyptiens ont projeté d'assassiner tous les Juifs. C'était un crime de lèse divinité d'aller sacrifier. Ils se prennent pour qui, les Juifs ? Ils vont sacrifier le Dieu de l'Égypte. Et à ce moment-là, le miracle qu'il y a eu, c'est que les Égyptiens ont été atteints d'une maladie qui les a terrassés. Ils n'ont pas pu sortir de chez eux. Il n'y a pas eu un Juif qui a été touché. Mais en attendant, c'était une épreuve pour les Juifs. Parce que cette épreuve-là, elle a bien marqué leur détermination de maintenant se mettre entièrement sous les ailes de Hachem, se jeter à l'eau, si j'ose dire. En disant, bon, les Égyptiens, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, nous, on va jusqu'au bout. Et c'est ce qui est passé. Ce phénomène-là, il va se concrétiser, donc il va nous démarquer de l'Égypte. C'est ce qu'on appelle le Corban Pessah. C'est-à-dire cet agneau qu'on a sacrifié. Alors là-dessus vient la deuxième page, où on a besoin de comprendre encore des choses très importantes. Il y a un sous-paragraphe, Israël nia leam, Corban Pessah. Ce sous-titre, je le traduis, Israël est devenu un peuple par le Corban Pessah. En effet, le Corban Pessah, explique le Rav ici, va être la première mitzvah collective d'Israël. En effet, avant la sortie d'Égypte, qui avait de juifs ? Ou quels allaient être les ancêtres des juifs ? Hein ?
Les tribus Yaakov.
Oui, les tribus Yaakov. Mais avant ?
Adam Arishon.
Sans aller si loin.
Abraham.
Abraham, Israël, Yaakov, les patriarches. Bon, eux, Hachem leur a donné des mitzvot, non ? Est-ce que vous le savez ? La Mina, bravo. Abraham a eu la mitzvah de la Mina, mais il l'a reçue en tant qu'individu. C'est Abraham seul, bon, avec ses serviteurs, qui s'est circoncis. Ils vont également recevoir, à l'époque de Yaakov, l'interdiction de consommer du nerf sciatique, le guidan Hachem. Mais encore une fois, ces deux mitzvot que les avot ont reçus étaient des mitzvot individuelles. Là, d'un seul coup, on change de vitesse. C'est un peuple entier qui reçoit une mitzvah. Et laquelle, évidemment pas par hasard, le Corban Pessah. Alors maintenant, abordons donc, qu'est-ce que ce Corban Pessah va représenter pour nous ? Ce qui va caractériser, c'est le paragraphe de la fin de la page, la sortie d'Égypte, c'est deux choses. La première, c'est la puissance de l'intervention divine, comme on dit le soir de la Gada, Bechosekian, par une main forte, Biat Razaka, Bizroa Netouya. Hachem nous a fait sortir avec une main forte et un bras étendu. Deuxième caractéristique, Ça, vous êtes en mesure de répondre si vous réfléchissez 30 secondes. Qu'est-ce qui est caractéristique dans la soif de Dieu ?
Miracle.
Hein ?
Miracle.
Ça, c'est ce qu'on vient de...
Non, c'est... Vous faites sortir à l'Israël, non ? Que, comme quoi Hachem, il avait épargné tous les premiers-nés d'Israël.
Ouais. Et quoi d'autre ? J'attends encore un mot. Comment ? C'est quoi la question ? Non, c'est bien d'avoir le courage de dire qu'elle n'a pas entendu ou qu'elle n'a pas compris. Parce qu'une bonne question appelle toujours une bonne réponse. Donc s'il n'y a pas de bonne question, il n'y a pas moyen d'espérer une bonne réponse. La question, c'est qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il y a eu de caractéristique au moment de la sortie d'Égypte ? Un mot que je suis sûr tous vous allez dire « Ah ben oui ». Et peut-être que moi je pose mal la question. Alors, on a dit le côté miraculeux. J'adhère. OK. Quoi d'autre ?
La
Emouna. Ça, c'est un terme trop général, la Emouna, genre. L'empressement. Comment ? L'empressement. Bravo, mademoiselle. C'est le mot que j'attendais. D'où on le voit, l'empressement ? Entre eux.
La matza.
Rappelez-vous, tout le thème de la matza, c'est quoi ? Ils n'ont pas eu le temps de laisser lever le pain. Donc, ça veut dire... Les gens qui avaient pétri une pâte, on dit voilà, on va partir. Bon, alors on va. Là-bas, il n'y avait pas de boulangerie, on n'allait pas acheter au supermarché de quoi se nourrir. Chacun pétrissait son pain. On pétrit le pain et mon cher Benoît dit tout de suite. Alors, ça fait 210 ans qu'on est là, on ne peut pas attendre une demi-heure. Tout de suite. Bon, ce n'est pas une raison pour t'énerver.
Non, ils auraient dû le laisser. On en aurait pu aller manger.
À part le mot d'esprit, c'est en fait ça qu'on doit comprendre. Ça veut dire que la sortie d'Égypte arrivait à un moment où l'homme devait comprendre quelque chose. C'est qu'en fait, dans la vie, c'est la perte de temps qui gâche tout. Quand il y a quelque chose qu'on doit faire, quelque chose qu'on a compris, qu'est-ce qu'il faut, le faire immédiatement. Celui qui prend son temps, il n'a rien compris. L'empressement, qui est donc une des caractéristiques de la sortie d'Égypte par laquelle, donc je répète, nous sommes devenus un peuple, nous indique bien que les mitzvot doivent être accomplis avec empressement. Même pas le temps de laisser le pain monter. Vous savez pourquoi cet abruti-là, il mange des matzot. Moi aussi, je crois qu'on aime tout ça, non ? C'est pas le sujet. On aime, on n'aime pas. Ça nous marque bien. C'est quand même extraordinaire comme bouleversement. En général, la Torah interdit des choses à manger, quoi, par exemple ? Donnez-moi une des interdits de la Torah.
Bah, la viande crépale, je sais pas.
Quoi ?
La viande non cachère.
Voilà, la viande
non cachère, des matéméa, etc.
Par exemple, le porc. Le porc, il est interdit quand ?
Tout le temps.
Tout le temps. Entre le porc et moi, les relations sont claires. Il n'y en a pas. D'accord ? Je ne le mange pas. Il ne peut pas me voir, moi non plus. Maintenant, par contre, le pain, c'est un bouleversement. Toute l'année, j'en mange. Tout va bien. Puis d'un coup, on me dit, attention, fini. Attends, pas on me dit fini, genre, enlève un peu le pain. Et le pain, et les brioches au chocolat. Non, je dis ça parce que je sais que... Et les croissants. Et les tartes à la crème. Tout. Et le chametz, pas un kilo, pas 100 grammes. Un millionième de gramme, c'est déjà du chametz. D'où la bédica, donc l'éradication totale de tout le chametz. C'est-à-dire qu'on est bien, là dans une dimension nouvelle. On exclut complètement le chametz de notre vie. Et bien évidemment, la sévérité avec laquelle les sages ont recommandé d'éliminer le chametz, parce qu'on y est tellement habitué, qu'on oublie. Moi, je vois un morceau de pain, mais je mange en général. Surtout si c'est ma femme qui le fait. Ma femme, elle fait un pain, disons. Alors, je le vois, je le mange. Là, maintenant, stop. Alors, pour éviter ça, que je me laisse tenter... Out. Le pain, on écrit un mot dessus, exit. Issor, le pain et tout ce qui est dérivé. Pour vous dire maintenant, tu restes dans la matzah. Et la matzah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la composition? Comment on pourrait définir comme ça la matzah? Il y a de l'eau, bien sûr qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas de levure. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de sel. Il n'y a rien. Mais surtout, la matzah, c'est un pain sans temps. S-A-N-S. Hein. Pas comme la guerre de sang. Un pain sans temps. Un pain auquel on n'a pas laissé de temps. Pour nous apprendre quoi? Ce que je viens de dire il y a deux minutes, que le pain, le temps de laisser le pain monter, c'est ce qui, dans la vie, nous fait perdre des grandes occasions. Il y a des fois dans la vie où on doit comprendre qu'il y a des choses à faire tout de suite. Celui qui ne sait pas les faire immédiatement, il ne les fera jamais. Il y a des choix à opérer qui ne doivent se faire sans la moindre attente. Par exemple, l'un d'entre eux, c'est le mariage. C'est vrai. Quand une jeune fille, un jeune homme s'aime, qu'est-ce qu'il faut faire? Se marier quand? Tout de suite. En théorie, si on est sûr de nos sentiments, qu'on s'en est aperçu à 17h, à 17h05, on doit être marié. Sauf que, bien évidemment, il y a toutes sortes de préparatifs. Il y a les parents, il y a la salle à trouver, il y a le rabbin à trouver, il y a la robe à acheter, il y a plein de choses. Mais autrement, dans la théorie, voilà un type de décision qui ne tolère pas d'être différé.
Je suis pas vraiment satisfait.
Tu n'es pas satisfait? Tu es célibataire?
Je suis célibataire.
Ah, voilà.
Mais si on prend en compte ce qu'écrit la Torah sur la femme, sur comment le mari doit respecter sa femme, pas tout le monde peut se marier quand il veut. Ça veut dire que si je reprends les propos de la Torah, qui dit dans Parashat Mishpatim, Shehera Kesutave en Ata, je ne peux pas, moi, à 17 ans, alors que je suis encore étudiant, je dépends de mes parents, me marier. Enfin, c'est en théorie. Voilà.
Je comprends ce que tu veux dire, mais moi je ne parle pas des contingences pratiques. Je veux dire que dans l'absolu, parce que parfois il faut essayer de se mettre dans l'absolu. Absolu, ça veut dire dans la théorie, quand il y a une mitzvah, si je vois le mariage sous l'angle de la mitzvah, et seulement l'angle de la mitzvah, elle ne supporte pas d'être différée. De la même façon, je dois faire le Shabbat. Quand l'heure arrive, c'est l'heure. Je suis prêt, je ne suis pas prêt, c'est de ma faute. Je me débrouille, mais le Shabbat n'y attend pas. Je dois faire ma prière le jour solennel. Bon, les Kharamim ont modulé, ils ont dit, bon, on peut attendre un peu, etc. Mais normalement, la prière, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, chapitre 89, Zmana imanet sachama. Le soleil se lève, en théorie, dès que le soleil arrive, hop, j'attaque ma prière. C'est-à-dire, encore une fois, on est dans une dimension théorique, je suis d'accord avec toi. Parfois, par exemple, je ne suis pas bien habillé, je ne suis pas propre, je ne suis pas ceci, je dois me préparer à la prière. Mais dans la théorie, je dois prier tout de suite. Le Shabbat, idem. Le Shabbat, l'heure du Shabbat arrive, je dois le recevoir. Le mariage, idem. Dès que les conditions sont réunies, on doit se marier, et ainsi de suite. Alors, je veux dire là, la Torah voulait nous enseigner que les décisions identitaires de la vie, comme s'engager dans la mitzvot, qu'on fait les juifs à ce moment-là, doivent être assumées sans délai. On aurait pu dire, bon, on va sortir d'Égypte, on prend un peu le temps, on n'est pas une semaine près. Comme je disais tout à l'heure, on est là depuis 210 ans. On va peut-être écrire à notre patron, Monsieur Abdel Mohamed, voilà, je dois sortir pour aller servir mon Dieu dans le désert. Je vous envoie une lettre de préavis de 8 jours ou de 3 mois. Non. Maintenant. Comme maintenant. Maintenant, tu es déjà en retard là. Le temps de poser la question, tu es déjà en retard. Si vous voulez, cette immédiateté, évidemment, elle est théorique, mais une fois dans notre année, une fois dans la vie du peuple d'Israël, il a fallu la réaliser. Réaliser que on va le faire immédiatement. Et tout ça entraîne comme bouleversement, comme changement, comme courage, il faut aussi le dire. Et bien évidemment, comprenez pourquoi il se marie pas. C'est un hésitant. Non, je plaisante. Excuse-moi, je suis un peu taquin.
Il n'y a pas de problème.
Alors maintenant, ce qui s'est donc passé, qu'on vient d'avoir, on avance dans l'idée, on a vu que d'abord, il fallait intervention divine puissante, hein, Beyat Razakam, il fallait que ce soit Bechit Bazon à toute allure, et il fallait que ça se passe par une mitzvah. La première, ça a été le Korban Pessah. Je vais revenir donc là-dessus pour déjà bien comprendre cette idée-là. On n'aura pas perdu notre temps. Mais avant d'aborder la mitzvah elle-même, restons une minute. En vérité, je suis impossible avec les lunettes, c'est vrai. Dès que je lis un texte, je dois les enlever. Et dès que je veux parler, je dois les mettre. C'est un grand adem. D'ailleurs, il y a un ophtalmo, enfin un professeur, qui m'a prescrit des verres qu'on appelle...
Double foyer.
Non, celui-là est un double foyer. C'est des verres qui s'appellent américains, qui ont été mis en fait en place à la demande des présidents des États-Unis, qui rentraient, autant dire que ce que je vous dis, c'est un professeur d'ophtalmologie qui s'appelle le professeur Devin, qui m'a dit cela, et parce qu'ils veulent regarder le public auquel ils s'adressent et en même temps lire leurs notes. Alors il y a un grand foyer en bas, comme ça ils ont besoin de baisser leur tête, parce que ça fait un peu troisième âge. Donc, ils veulent faire Zama, ils sont jeunes. Alors ils disent, mes chers concitoyens. Oui, ça fait hop, recalé. Donc en tout cas, je les ai essayés, c'est une catastrophe. Je dis tant pis, mais je vais rester comme ça. Comment c'est ton prénom? Et je vais demander à Réouven de les ramasser quand elles tombent, si tu veux faire. Merci. Et puis il est sympa en plus. Alors, l'idée qui est maintenant là, sur laquelle on va donc juste s'arrêter une minute, c'est que toutes les nations du monde, tous les peuples, ont constitué leur législation au fur et à mesure du temps. Par exemple, la législation française, elle est née d'un coin en 1789. Elle a été l'objet de textes de loi qui ont été votés par des chambres, qui ont été mis en place, au fur et à mesure des circonstances. Toutes les nations du monde se sont constituées dans l'histoire une législation adaptée à leurs besoins et aux nécessités du moment. Ok, c'est comme ça partout. Et voilà, là, Israël, c'est un peuple qui est en dehors du temps. Il reçoit l'ordre de partir tout de suite, il part. Et il reçoit une mitzvah qu'il applique tout de suite. Il n'y a pas de temps. Et en fait, voilà pourquoi c'est une décision-là où j'arrive à vous la faire comprendre. D'ailleurs, nous, c'est quoi? Parce que nous, on sommes un peuple éternel. Parce que un peuple qui a le temps, c'est un peuple qui vieillit. Nous, on ne peut pas vieillir. On doit rester jeune parce qu'on ne rentre jamais dans le temps. C'est comme la mode. Il y a des gens qui veulent toujours être à la mode. Comme la mode, elle change, ils sont toujours démodés. Tandis que si tu ne rentrais pas dans la mode, vous êtes toujours à la mode. Vous n'y êtes pas rentré. Aujourd'hui, par exemple, on revient un peu à la mode rétro. Ça veut dire quoi, ce que dire? On revient comme avant. Pourquoi? Ils n'ont pas de nouvelles idées, les designers, les couturiers. Non, parce qu'ils pensent que, de toute façon, c'est un cercle. On revient. Ça, la Torah a compris ça dès l'origine. Elle a dit, nous, on ne veut pas vieillir. Il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il a dit à ses chassidim, je vous interdis de vieillir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire, ne laissez pas le temps avoir de l'emprise sur vous. Voilà comment je formule. C'est bien. Si je laisse le temps me grignoter, je suis mangé. Je suis dévoré par le temps. Effectivement, le temps, c'est la denrée la plus rare, la plus chère, la plus traumatisante. Parce qu'au fur et à mesure, on rentre dans le temps. Alors au départ, on est un beau jeune homme. Un jour déjà, c'est bien sûr. Et puis, je fais du jogging, du bodybuilding. je fais du sport, je suis un athlète, puis après, le temps, un petit ventre, un gros ventre, un énorme ventre, les cheveux, où ils tombent, où ils deviennent blancs, en un mot, les rides, etc., je vieillis. Et l'homme est malheureux de se voir vieillir, parce qu'il voit, c'est quelqu'un qui constate ça, ce que le temps a une emprise sur lui. Alors en fait, on peut rester jeune éternellement, en ne se situant pas dans ces coordonnées-là. Celui dont toute la personnalité est définie par des signes extérieurs, il est obligatoirement grignoté par le temps. Je ne peux pas ne pas vieillir. Obligatoirement, il va y avoir tous les signes que je viens de donner. Par contre, bien... Le bébé.
C'est quel bébé ?
Donc, voilà en quoi la sortie d'Égypte, c'est un bain de jouvence. Elle nous indique bien là où il ne faut pas aller et là où il faut aller. On ne rentre pas dans le jeu du temps qui va nécessairement nous dépasser et nous écarter. Et on va tout de suite dans l'immédiateté de la mitzvah. Alors maintenant, pour terminer pour aujourd'hui, un mot de du Korban Pessah lui-même, qui est en fait, ici dans notre petite photocopie, si vous l'avez sous la main, sous les yeux, la troisième page. Non, excusez-moi, la quatrième. Voilà, Shin Gimel. C'est ça que je suis en train de résumer. Non, c'est pas la peine de le distribuer, on n'a pas le temps. Il est déjà 7h30. Le temps, oui. Ce qui caractérise le peuple d'Israël, c'est d'abord sa petitesse. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Combien de juifs aujourd'hui? Vous avez une idée?
12.
Voilà. 12 millions, entre 12 et 13 millions, d'après les chiffres les plus fiables. C'est cloum, comme on dit en hébreu. 12 à 13 millions, Mao Tse-Tung a dit, tous les juifs du monde tiendraient dans la banlieue de Pékin. C'est vrai? C'est un peu plus que la population de l'Île-de-France. Dans le monde entier. On est dans 140 pays. Ce petit peuple-là, il est le peuple qui a choisi Hachem. Pourquoi il n'a pas choisi les Chinois? Ça aurait été cool, imaginez, 3 milliards de juifs. Moi, je pense qu'il n'a pas choisi les Chinois, parce qu'autrement, déjà à 12 millions, on se bagarre sans arrêt. Si on était 3 milliards, je ne vous dis pas, c'est la révolution quotidienne. Donc, pour être sérieux, il faut que cette identité juive, elle passe par la fragilité. Qu'en fait, on ne se maintient que par la protection divine. Comme on est sorti d'Égypte grâce à lui, on continue de vivre grâce à lui. Et cette existence fait de nous, en fait, quoi? On se sent très proches les uns des autres, les juifs. Parce que la Torah dit elle-même, à l'époque, elle a 3300 ans, Kiatem Ameat Mikol Amim, vous êtes le plus petit de tous les peuples. On n'aurait pas pu grandir davantage depuis. Combien avait de Français à 3300 ans? Il n'y en avait pas. Mais la France est née bien après, aujourd'hui à 60 millions. Les Américains, les Russes, les Européens, ce que vous voulez, les Chinois. Nous, on était déjà à l'époque quelques millions, parce qu'il y avait 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Multiplié par deux pour les femmes, ajouter les enfants. Et les plus de 60 ans, donc on va être certainement 4 à 5 millions. 5 millions il y a 3000 ans, on devrait être aujourd'hui 500 millions. Il y a des gens qui ont fait comme ça des calculs, je ne sais plus exactement, mais en tout cas tout le monde est d'accord pour dire que ça se chiffre en centaines de millions. Et on est toujours aussi peu nombreux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre petitesse n'est pas un accident, c'est une vocation. Être un petit peuple, ça doit être la nature du peuple d'Israël. Pourquoi? Pour qu'on se rende compte tout de suite qu'à côté de ce petit peuple, il y a un très grand Dieu, le seul. C'est lui qui fait l'histoire avec nous. Et cette identité d'être petit, que nous sommes très proches les uns des autres. On a évoqué la semaine dernière donc le drame de Toulouse, mais ce qu'il y a de grandiose dans cette histoire-là, c'est combien tout le monde s'est senti concerné. Combien de fois, moi, j'ai entendu depuis ce qui s'est passé, des gens qui m'ont dit, moi, j'ai même pas pu voir les images, pas parce que c'est cruel. Cette petite fille, m'ont dit les gens, c'est ma petite fille. Je la vois comme si elle était à moi, tellement je me sens proche d'elle. Et ainsi de suite. Cette proximité, elle nous vient de notre petitesse. Alors, là, on arrive à l'agneau, Pascal. Mais la Gemara dit dans Psachim, pourquoi la Torah a-t-elle choisi un agneau? Parce que l'agneau est un animal fragile. Il y a une caractéristique, c'est que si on lui fait mal à un endroit, c'est tout le corps qui est endolori. Il a mal partout. Et ça, c'est un peu le peuple d'Israël. Pour illustrer cela, on a demandé il y a quelques décennies à un grand maître appelé Rav Soloveitchik quel est le statut d'un bébé qui naîtrait avec deux têtes. Est-ce qu'il a droit à deux parts d'héritage ou bien non? Et le Rav a répondu, si on verse l'eau bouillante sur une tête et que c'est l'autre qui crie, c'est que c'est un seul bébé. J'ai compris l'allusion. Si quelque part il y a des juifs qui souffrent, je ne les connais pas. Et moi je souffre avec eux, parce qu'on est toujours un même peuple. Voilà l'enseignement du Corban Pessah, qu'il a fallu évidemment transiter malgré toutes les circonstances, et qui était donc cet animal qui a été choisi. Et enfin, le Corban Pessah, dernière chose que je vais dire aujourd'hui, il fallait le consommer grillé. Même si vous n'êtes pas tous des grands cuisiniers, surtout les garçons, quelle différence il y a entre de la viande grillée et de la viande cuite? Quand on fait bouillir de la viande, qu'est-ce qui se passe? La viande, qu'est-ce qu'elle devient? Voilà. Et puis, donc, en fait, la viande, à terme, elle devient. Bon, enfin, on ne fait pas des grands cuisiniers. Elle se coupe en morceaux. À la limite, les morceaux, ils vont peu à peu se dissoudre dans l'eau, dans le bouillon. La viande grillée, quelle caractéristique elle a? Quand on la fait griller sur le feu, la viande, elle se rétracte. Elle devient encore plus concentrée. Comme ce petit animal qui devient encore plus concentré. Comme le peuple juif, qui passe par le feu de l'histoire et qui devient de plus en plus solidaire, proche les uns des autres. Voilà.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbinim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.